que serait un jeu vidéo sans sa musique, sans son univers sonore. C'est ce qu'essaye de nous raconter l'exposition Video Game and Music à la Philharmonie. On est avec l'un des deux commissaires de l'exposition, Jean Z, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un des premiers journalistes français qui s'est spécialisé jeux vidéo sur des gros médias, à Radio France. Vous adorez la musique de jeux vidéo, vous l'avez beaucoup utilisée quand vous faisiez des chroniques pour présenter des jeux. Et cette exposition, elle est faite avec Fanny Rébillard, on va la saluer puisqu'elle ne peut pas être là aujourd'hui, qui a fait, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu passer, des livres très intéressants, passionnants sur la musique de jeux vidéo, notamment Zelda,
oui.
C'est une grande spécialiste. Co-commissaire, co-curateur, vous aimez bien utiliser ce mot-là. Et moi, ma première question, c'est si vous deviez écrire une note d'intention de votre exposition, là vous me le faites à l'oral, ce serait quoi l'intention à travers l'expo ?
L'intention, c'est de faire jouer à la musique de jeux vidéo, de faire comprendre que la musique de jeux vidéo a ses spécificités. Ce n'est pas un genre, ce n'est pas le métal, ce n'est pas le disco, ce n'est pas le rap. Ce n'est pas la musique de film. Et j'aimerais, voilà, tout ce qu'on souhaite avec Fanny et puis toute l'équipe de la Philharmonie, c'est de se dire, tiens, le visiteur, au-delà du parcours, puisse se dire, tiens, c'est organique, c'est vivant. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe de vivant quand on a affaire à cette musique de jeux vidéo.
D'ailleurs, on a cette impression aussi parfois qu'une musique de jeux vidéo, quand on l'écoute à l'extérieur, elle n'est pas, peut-être pas aussi spéciale que quand on l'entend dans la mécanique de jeu, notamment une musique de combat de boss, par exemple. C'est un peu ça, l'un des messages, c'est que parfois, c'est l'interaction entre le gameplay et la musique qui fait que ça devient quelque chose de plus fort.
Oui, exactement. Bon, ceci dit, c'est la musique à l'extérieur, la musique à l'image aussi. À l'extérieur, on peut l'apprécier, mais c'est le même problème au cinéma. Voilà, une musique de John Williams, elle est formidable à l'extérieur, mais la musique des Dents de la Mer, dans des Dents de la Mer, c'est quand même absolument incroyable. Donc, et pour le jeu vidéo, c'est exactement pareil. Là, le feeling, c'est de se dire qu'effectivement, il y a un troisième larron dans l'histoire. Il y a l'image, effectivement, mais il y a la musique, et puis il y a le joueur.
Le joueur.
Et le joueur ou la joueuse, eh ben, il joue son rôle dans cette musique, et cette musique de jeux vidéo s'est sophistiquée au fur et à mesure des décennies, et c'est ce qu'on tente de montrer, de faire comprendre que finalement, eh ben, on n'est pas compositeur, c'est pas vrai, on n'est pas complètement compositeur. Par contre, on fait partie de la composition, ce qui est assez étonnant. Faire partie de la composition.
Vous l'expliquez bien, en tout cas pour le rôle des compositeurs des premiers jeux vidéo, qui étaient aussi des développeurs informatiques en même temps.
Oui.
Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est peut-être les premiers jeux vidéo qui ont les empreintes les plus fortes. Comment vous expliquez ce paradoxe, notamment musique de Sonic, Zelda, Mario ?
Il faut dire qu'à partir des années 90-2000, en fait, techniquement, dans le jeu vidéo, on pouvait faire toutes les musiques. Vous voulez la musique symphonique, on va faire de la musique symphonique. Vous voulez du rap, on va faire du rap. Enfin, voilà. Mais la musique spécifique, parce que limitée électroniquement par la puissance, eh ben, c'est les années 70, 80, 90, et c'est un son extrêmement particulier. C'est effectivement, paradoxalement, le son du jeu vidéo. On l'utilise quasiment plus, j'exagère, on l'utilise encore, effectivement, aujourd'hui, ce son-là, dans le chiptune, dans la démo scène, etc. Mais elle est restée. Il suffit de faire une petite écoute de la musique de Space Invaders.
Parce qu'il y a des références aussi aux origines, peut-être ?
Oui, et puis il y a ce son de l'électronique de l'époque, condensé dans des toutes petites puces, vraiment très très limitées. Vraiment, les premières années, c'est extrêmement, vraiment, les pauvres.
Ça limite les choix, mais ça oblige à être plus ingénieux aussi dans ce qu'on veut faire.
Exactement.
L'exposition, on ne va pas la raconter maintenant. On a quelques images qui nous permettent de voir, mais j'invite les gens à y aller, parce que chacun va la vivre différemment, parce qu'on... On la compose un peu comme on veut, on s'attarde là où on veut. Il y a notamment des focus sur les compositeurs. Il y a un passage intéressant, c'est la scène centrale où il y a beaucoup de vidéos qui tournent. Le son d'ailleurs est très bon puisque l'acoustique est très bonne dans cette salle, on entend bien les musiques. Et il y a un focus qui m'a beaucoup plu sur Paris. Comment Paris est retranscrit différemment, musicalement, selon les jeux. Et comment vous expliquez l'utilisation d'un certain type de musique pour retranscrire, là c'est la ville de Paris, on pourrait le faire avec Londres, avec Tokyo, avec Pékin, là les créateurs des jeux, ils ont une palette en plus pour créer une atmosphère en fait.
Oui, et puis ils ont même une palette en plus, ils peuvent même faire des choses que finalement au cinéma on ne s'autorise peut-être plus. Je pense à Olivier de Rivière qui va enregistrer un énorme orchestre symphonique, et puis, d'un coup, il va l'échantillonner, il va la scratcher, il va la casser, il va la compiler comme de la musique électronique. Et du coup, ça, c'est dans Remember Me. Donc, c'est un jeu de science-fiction avec un pari de Dontnod, avec un pari du futur. Et d'un coup, on garde la tessiture de la musique classique, mais recomposé et revu et corrigé par la musique électronique. Et ça, c'est absolument incroyable, parce que ça, ça s'écoute, ça, c'est une façon de faire de la musique qui s'écoute dans le jeu vidéo et peut-être pas ailleurs.
Où est-ce que se situe la frontière entre la musique dans un jeu et ce qui va être le sound design, je pense, un jeu que j'ai pas le droit de citer normalement, Clair Obscur. Allons dans les esquisses de Verso, où parfois on entend une musique de fête à un endroit. Quand on s'écarte progressivement, la musique baisse, mais elle est toujours là. Il y a une frontière qui n'est pas très claire entre ce qu'est la musique dans le jeu et ce qu'est le sound design.
Exactement. C'est-à-dire que l'ambiance, entre guillemets, ce que j'appellerais l'ambiance, et la musique, finalement, quand c'est très bien fait, quand c'est vraiment fait à un point de sophistication intense, c'est quasiment invisible. Voilà. Je citerai le travail de Arkane à Lyon, avec Michel Trémouillet, qui est sound designer, mais il est tout aussi compositeur. Enfin, il fait les deux, et l'idée, c'est de effectivement implémenter cette musique pour qu'elle réagisse sans cesse. Effectivement, vous le disiez, on s'approche. La musique, cette musique s'intensifie, on s'éloigne parce qu'on s'en fiche, parce qu'on a envie de faire autre chose, et ben d'un coup, là, cette musique s'éloigne. Ce qui fait que on n'a jamais, c'est pour ça que c'est très difficile à faire une BO, finalement, à sortir une BO du jeu, par exemple en vinyle, en CD, sur Spotify ou que sais-je. Pourquoi ? Parce que finalement, mon voisin, il n'aura peut-être pas la même écoute musicale que moi.
On sort une liste de morceaux et pas un univers.
Et pas une ambiance, et on revient à cette idée de sound design intégré à la musique, mais qui est déjà le cas chez Super Mario Bros. Ou chez un compositeur comme Koji Kondo.
Le mot de la fin, ce serait quoi ? Parce que quand on regarde l'exposition, ce qu'on voit aussi, c'est que la grande musique a accepté le jeu vidéo, et notamment sur cette scène centrale, on voit un concert d'un grand orchestre sur un jeu indépendant de journée, et ça, c'est quand même un signe, c'est que même les orchestres philharmoniques à Tokyo, par exemple, sur Dragon Quest, on voit plus de hall jeux vidéo. Là, c'est clairement les grands artistes, les grands musiciens, les grands compositeurs peuvent avoir envie de travailler sur la BO d'un jeu.
Ouais, les grands orchestres. Je pense à l'Orchestre de Paris, celui de la Philharmonie. Donc, au mois de juin, il y a un festival et ils ont accepté de prendre le jeu vidéo, de le jouer.
C'est devenu noble.
Je sais pas si c'est noble. En tout cas, c'est ça les intéresse, parce que je pense que c'est leur culture, en fait, aussi. Comme c'est la culture des musiciens, comme c'est la culture parfois des sportifs. Ben, la culture des musiciens, c'est aussi le jeu vidéo. Et même des musiciens classiques. Je pense qu'ils ont ça en leur cœur. Et du coup, ça s'entend. Et on a de plus en plus, effectivement, d'orchestres symphoniques ou non, d'ailleurs, qui reprennent de la musique de jeu. Et tant mieux, et de manière très différente. Vous citiez Clair Obscur, Expédition 33. La musique est totalement atypique, même pas dans le monde du jeu vidéo.
C'est orchestre joyeux, curieux.
Exactement, orchestre curieux. Et du coup, mais les gens sont là. Dès qu'il y a une audition, ça fait tilt.
Ils remplissent des salles.
Exactement.
Jean Z, merci beaucoup. Donc, on le rappelle, Fanny Rébillard, votre co-curatrice, co-commissaire d'exposition. Ouais. On va accueillir une autre personnalité du jeu vidéo qui aime aussi la musique de jeux vidéo. Vous le verrez, Kayane. Alors, sa spécialité, c'est plutôt les jeux de combat. C'est plutôt aussi l'animation d'émissions télé de jeux vidéo. Et elle est avec moi d'ici quelques secondes.